Et pour commencer cette émission, Antoine, nous vous invitons à une réflexion sur les liens entre cinéma et politique et sur le pouvoir des images.
Mais est-ce qu'il est possible de faire des films en Allemagne aujourd'hui?
Alors c'est bon.
C'est impossible d'un point de vue même philosophique. En gros, l'idée, c'était plutôt, moi je partais sur l'idée, c'était de... Est-ce qu'il est possible de faire des images en Allemagne?
Est-ce que c'est possible en Deutschland zu machen?
Je veux dire, est-ce qu'il est possible d'avoir l'image, au sens de l'imagination? Mm-hmm. En gros, est-ce qu'un Allemand est capable de faire une image? Puis on verra à la fin du film si c'est oui ou si c'est non.
Une réflexion sur les liens entre cinéma et politique et sur le pouvoir des images qui nous a été inspirée par un film, un excellent documentaire sorti en salle le 14 octobre intitulé « Une jeunesse allemande » qui débute par cette voix de Jean-Luc Godard. Le réalisateur est avec nous, Jean-Gabriel Perriot. Bonjour.
Bonjour.
Et pour discuter avec vous, nous avons invité le documentariste et directeur de la collection Mystères d'archives, Serge Vialet. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir convié
c'est
à votre
plaisir.
Grande table.
C'est une collection Mystères d'archives qui est produite par l'INA et diffusée sur Arte depuis maintenant presque 10 ans. Une collection de documentaires qui propose des images historiques, certaines connues, d'autres inédites. Et 10 inédits viennent d'être mises à notre disposition puisqu'ils seront diffusés à partir du 2 novembre, c'est ça? À partir du 2 novembre jusqu'au 27
très juste,
novembre.
Après 2 années de travail.
Après voilà. 2 années de travail et un certain nombre de recherches documentaires sur lesquelles nous allons revenir. On peut en citer quelques-uns, les funérailles de Gandhi,
oui.
La catastrophe du Torrey Canyon, Fidel Castro aux Nations. Donc on a des Nixon en Chine, l'attaque de Pearl Harbor.
Charlie Chaplin qui tourne le dictateur.
Voilà. Donc un certain nombre d'inédits seront donc diffusés à 17h35 sur Arte entre le 2 et le 27 novembre. Je disais que cette émission nous avait été inspirée d'abord et avant tout par ce film Une jeunesse allemande. Une jeunesse allemande comporte deux aspects passionnants. D'abord, il s'agit, Jean-Gabriel Perriot, d'un film qui se concentre sur l'histoire de la fraction Armée Rouge, ce groupe terroriste d'extrême gauche ouest-allemand qui a œuvré dans les années 70, qu'on a désigné en France sous son acronyme RAF, R-A-F, et qu'on a plus communément appelé la bande Abadère, du nom de l'un de ses membres. Ça, c'est le premier aspect. De 1965 à 1977, vous nous montrez comment est née cette bande Abadère, qui étaient les membres de cette bande Abadère et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des terroristes. Et puis, il y a un autre aspect qui est passionnant, c'est que vous nous racontez cette histoire, en images. Ce ne sont que des images d'archives. C'est aussi, et c'est par là d'ailleurs, une réflexion sur les images qui débute donc par ces mots de Jean-Luc Godard, qui s'achève, et on verra plus tard, par un extrait d'un film de Fassbinder. Pourquoi avoir débuté par cette voix de Jean-Luc Godard et par ce qu'il dit d'ailleurs?
Je voulais peut-être commencer le film sous les auspices du cinéma. Et du coup, de faire une introduction au film qui désaxe un peu l'attente du spectateur, parce que du coup, on va voir un film sur la RAF et on commence par Godard qui parle du cinéma. Et du coup, ça permet tout de suite de se dire, voilà, tiens, ça va être un peu plus... ça va pas être seulement sur la RAF, mais quelque chose va déborder du sujet. Et j'aime beaucoup ce que dit Godard, même si je suis en opposition avec ce qu'il dit, mais est-il possible de faire des images aujourd'hui en Allemagne, en 74, donc dans un moment très tendu de l'Allemagne, pendant les années de plomb, qui se réfère à est-il possible d'écrire un poème après Auschwitz? Et moi, je pense qu'on peut toujours faire des images, même qu'il faut en faire, c'est toujours nécessaire, mais j'aimais bien que... Voilà, poser la question par Godard, est-il possible d'en faire? Moi, je postule que oui, mais je trouvais ça important d'amener cette question. Il n'y a pas d'évidence à ce qu'on puisse faire des images sur tout. Et au moins, Godard a la clarté de poser la question.
C'est intéressant que vous disiez qu'on peut toujours en faire, parce que vous avez choisi de ne pas en faire vous-même, en l'occurrence,
oui.
Puisque le film est fait avec les images des autres.
Oui.
Et en particulier, d'ailleurs, les images produites par eux-mêmes, parce que c'est l'un des intérêts majeurs de ce film, c'est de montrer que ces gens-là, qui ont été ensuite parmi les plus importants dans la bande Abadère, alors Ulrich Meinhof par exemple, ou Holger Mainz, ou même Andreas Bader, étaient des gens d'image. Racontez-nous ça, Jean-Gabriel Perriot.
C'est ce qui fait que d'un coup, pour moi, cette histoire devient un film possible. c'est parce que dans les hasards hein, de leur histoire, plusieurs des membres importants qui vont créer le groupe ont une histoire, ont à voir avec les images, soit comme producteurs d'images directement, comme réalisateurs, soit vont apparaître dans des images, principalement télévisées, parce que ce sont des petites figures de la société ouest-allemande de l'époque, comme Meinhof ou Mahler, et qui du coup ont le droit, de manière très étonnante a posteriori d'aujourd'hui, au plateau télé. Et même très souvent, ils ont le droit au plateau télé. Donc du coup, il y avait comme ça une masse d'archives existantes qui permettaient de raconter leur histoire par eux-mêmes, d'une certaine manière, hein, et de revenir sur leur point de vue sur le monde. Les années passant, le film étant chronologique, on voit la transformation de leur point de vue, de leur langage. On voit quelque chose se jouer que permettait ces images-là, ce qu'ils avaient produit eux-mêmes.
Ce qu'on voit surtout, et je vais me tourner aussi vers Serge Vialet, c'est que tous ceux-là, dont certains d'ailleurs étaient des anciens étudiants de l'école de cinéma de Berlin, mais tous ceux-là croyaient vraiment en la force des images. Enfin, au début, dans les années 60-65, ils sont jeunes, ils ont entre 25 et 30 ans, manifestement, pour la plupart d'entre eux, et ils croient, dur comme fer, que le cinéma ou les images, qu'elles soient télévisuelles ou cinématographiques, vont pouvoir changer le monde. Et puis ensuite, ils se heurtent à la réalité, Jean-Gabriel Périot.
Oui, c'est le grand, mais ils s'inscrivent dans leur époque. C'est le grand moment du cinéma, un des grands moments, c'est pas le seul, mais du cinéma politique, militant, engagé, où on pense que faire des films va servir à l'avènement de la révolution. Et ils y croient dur comme fer. D'ailleurs, c'est un des écueils de leur propre vie, c'est qu'à un moment, ils se rendent compte que ça marche pas. Voilà. Le cinéma peut servir à quelque chose, peut-être, mais en tout cas, il fait pas la révolution à lui tout seul. Et ils avaient une très grande espérance dans cet outil-là, et que ça soit avec des stratégies très différentes, entre le film tract vraiment engagé, aller distribuer des caméras dans des groupes en difficulté, ou Meinhof, qui elle, est assez étonnante parce qu'elle va à la télévision faire des films, presque, alors pour, très engagé, avec un discours presque parfois très l'équivalent PCF, en tout cas très ouvriériste, ou des films très adressés aux spectateurs de télévision, et elle le fait en conscience, c'est-à-dire elle va parler aux téléspectateurs avec un langage qu'il pourrait comprendre, avec une forme qu'il peut accepter, qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, facile que ce qu'elle écrit dans les journaux. Ils avaient tous conscience des outils qu'ils avaient à disposition.
Alors, on disait tout à l'heure que vous aviez choisi de ne pas faire d'images à partir des images des autres. En tous les cas, que vous croyez vous-même qu'il faut continuer de faire des images, mais que vous avez choisi de faire ce film à partir, qui était votre premier long métrage d'ailleurs, à partir d'images d'archives. Parlez-nous de ces images d'archives, qui sont des images rares, donc. Comment avez-vous procédé? Comment vous allez travailler pour trouver ces images-là, qui a dû sûrement intéresser Serge Vialet.
Ça fait partie des questions que j'allais vous poser. J'aimerais bien la poser à ma façon.
Eh bien, bien sûr, vous êtes là aussi
d'accord.
Pour ça.
Première chose,
Serge Vialet.
Votre film m'a beaucoup plu, m'a énormément intéressé et m'a considérablement touché pour deux raisons. L'une est personnelle, l'autre est professionnelle, dirais-je. Personnelle, dans les années 70, j'étais étudiant en cinéma à Paris, à l'École nationale Louis Lumière. Dans les années 70, je me suis retrouvé dans un haut lieu de contestation qui s'appelle le plateau du Larzac. Dans les années 70, j'étais dans une arrière-cour de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire les bases de B-52 en Thaïlande. Je vivais dans ce pays, la Thaïlande. Donc je suis là, sur un plan personnel, fortement touché et troublé par votre film. Et je dirais même que, par moments, le pouvoir des images est tel que j'étais transporté, ému, impressionné. Sur un plan professionnel, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'artisans de l'audiovisuel. Je me permets de vous appeler ainsi parce que nous sommes des artisans de l'audiovisuel. Ça me permet de casser toutes les barrières, cinéma, télévision, web et autres. Vous travaillez l'image et vous travaillez comme peu le font l'image ancienne, l'image mémoire, l'image d'archive. Ce qui me touche beaucoup puisque j'ai la chance de travailler là-dessus depuis des années. Et à ce sujet, enfin, en revoyant votre film, pendant qu'il défilait sur mes yeux, qu'il m'impressionnait, que je l'écoutais aussi, je me posais beaucoup de questions sur la façon dont vous avez pu travailler, avoir accès à des images. Et surtout, je voudrais donner un tout petit contexte avant d'écouter votre réponse à ce sujet. Vous travaillez aujourd'hui comme auparavant, nous n'étions pas en mesure de le faire. C'est-à-dire l'accès aux images anciennes était très réservé et très compliqué. Maintenant, par le truchement de l'Internet, par la numérisation des images, etc., il y a d'autres possibilités qui n'étaient pas offertes, n'est-ce pas, aux documentaristes précédemment. Et comment avez-vous fait ? D'abord, quel était le premier contact avec le matériau qui vous a conduit à décider à faire ce film ?
Jean-Gabriel Perriot.
Oui.
J'ai été long, j'en suis désolé.
Non, mais c'est très très bien. J'ai commencé par la fin. Les premiers contacts, c'est vraiment des fragments de choses que je pouvais retrouver dans des documentaires contemporains.
Oui.
Qui reprenaient toujours les mêmes petits bouts d'archives, mais qui étaient suffisants, en tout cas, pour me rendre très très curieux. Et aussi le cinéma allemand, parce que plus facilement accessible en DVD, que ça soit l'Allemagne en automne ou les films de la période, qui me renseignaient sur cette histoire.
Oui.
Ensuite, la recherche, c'est le travail du temps, quoi. C'est juste très très long, parce que la plupart de ces images.
Quand vous dites très long,
plusieurs années, 8 ans.
Merci. Merci de le dire. Merci de le dire. Merci de le souligner. Oui. 8 ans de travail.
Oui. Ouais. Parce que 8 ans de travail, parce que déjà, je connaissais pas l'histoire de l'Allemagne. Ni l'histoire de la RAF.
Et vous n'êtes pas non plus
et
germanophone.
Je ne suis pas germanophone, donc forcément ça complique. Et j'étais face à des ensembles d'images considérées comme oubliées ou perdues, en tout cas, très difficilement accessibles. Et du coup, j'ai dû faire une recherche type universitaire pour trouver des fragments d'indications où travaillait Meinhof, à quelle année, quel était le sujet de ses films. Donc là, il faut croiser beaucoup d'informations.
C'est ça, le contexte voilà. de la production d'images.
Ouais. Et ensuite, j'avais la difficulté de me retrouver face à un nombre considérable d'archives, parce que déjà en Allemagne, les archives sont... Il n'y a pas l'équivalent de l'INA qui regroupe toutes les chaînes allemandes.
Oui.
Et à l'époque, il y avait déjà une dizaine de chaînes en Allemagne avec le système fédéral. Et du coup, il fallait aller taper pour chaque bout d'émission dans chaque chaîne. Donc c'était un peu compliqué. Il y a la cinémathèque pour les films de l'école, des producteurs privés, des fonds privés. Et il fallait contacter...
D'accord, donc vous êtes déplacé pour aller visionner.
Beaucoup en correspondance aussi. Et la difficulté étant que, par exemple, les chaînes de télé n'avaient pas référencé les archives de l'époque.
C'est un vrai travail d'archéologie, finalement.
Exactement.
Il y a une chose de l'archéologie, oui.
Ce que vous faites aussi...
Merci de le dire. Ah, j'adore cette expression.
Ce que vous faites aussi, vous, oui. dans votre collection Mystères d'archives pour Arte.
C'est vrai qu'à Mystères d'archives, nous nous considérons un peu comme travaillant comme des archéologues. Donc il faut, comme le dit très justement Jean-Baptiste, il faut...
Jean-Gabriel,
pardonnez-moi. Jean-Gabriel, comme vous le dites très justement, il faut... contextualiser, c'est-à-dire, n'est-ce pas, on fait une fouille où pourquoi, si on retrouve un bout de vase étrusque, pardonnez-moi de faire prendre cette image comme comparaison, mais de quelle période, à quelle période a-t-il été produit, n'est-ce pas, quels étaient les dessins, quels étaient les modes de travail, les pâtes, n'est-ce pas, les argiles, comment est-ce qu'elles étaient...
Non, mais surtout, en plus, vous allez plus loin dans votre oui. film que la recherche, qui est une recherche esthétique même dont vous parlez, une recherche d'histoire ou une recherche historique dont vous parlez, Serge Vialet. C'est là qu'on retrouve le lien entre cinéma oui. et politique, oui. très fort dans oui. le film Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, c'est que malgré tout vous montrez aussi, et d'où l'utilisation de la voix de Godard au début et le choix que vous faites des archives, à quel point ensuite c'est raconter une histoire. Les images racontent une histoire, mais vous-même qui choisissez des archives racontez votre histoire, montez une histoire au présent, parce qu'on vous suit là dans Une jeunesse allemande. On est dedans, on est transporté, c'est assez haletant. On raconte au présent, vous racontez votre film comme une fiction, et vous allez aussi loin dans la volonté de ne mettre aucune voix off, ce qui est une vraie différence avec vous, Serge oui. Vialet. Mais on va d'abord laisser Jean-Gabriel Perriot sur cette dimension, qui est une dimension politique au sens très large, oui. Un choix esthétique et politique.
Oui, c'était un choix, l'absence de voix off, mais ça permet justement cette mise au présent des archives. C'est-à-dire, surtout quand c'est monté là de manière chronologique sur une période de 10 ans, chacun des protagonistes de cette histoire, au moment où l'archive est donnée, ne sait pas ce qui va se passer derrière. Voilà. Et tandis que la voix off souvent ramène des éléments de préscience pour le spectateur et ancre souvent dans un temps donné.
Voilà, ça met à distance, ça éloigne dans le temps.
Voilà. Et en même temps, ça rapproche du coup les archives, paradoxalement, qui, dans le rapport spectatoriel, on est au présent de l'indicatif. Et voilà, parce que les personnages, les protagonistes ne savent pas, l'histoire n'est pas encore écrite. Et du coup, ça crée ce temps entre deux, en fait, entre le passé et l'aujourd'hui, par le travail du regard, qui voilà, était quelque chose, un outil très important pour moi pour permettre d'utiliser ça pour questionner aujourd'hui.
C'est ça.
Voilà, le spectateur, lui, est contemporain, moi je suis contemporain, l'histoire est du passé, mais chacun rentre dedans du coup avec ses propres savoirs et ressort avec ses propres questions.
Ce qui est peut-être une différence avec le choix ou l'ambition de votre collection,
pas vraiment,
Serge Vialet.
Parce que quand vous dites on se met au temps présent, vous proposez d'être au présent des archives, c'est dans une certaine mesure ce que nous tentons de faire, parce que quand nous revisitons une archive, nous dites, voilà, mardi 10 avril 1934, et nous exprimons au temps présent. Je voudrais juste revenir sur la notion de que vous ne faites pas d'images. Si, vous faites des images. Bien sûr, nous faisons, à partir d'archives, vous refaites une image, vous recréez une image globale, d'abord, n'est-ce pas, concernant une situation, cette jeunesse allemande, vous en donnez une image. Donc vous créez une nouvelle image à partir d'images anciennes.
Oui, non seulement vous créez une image, mais encore une fois, vous racontez une histoire qui est l'histoire que vous souhaitez raconter. Jean-Gabriel Perriot, cette dimension-là est extrêmement importante.
Oui, c'est en tout cas le film assume je raconte une histoire qui emprunte ma subjectivité. C'est pas l'histoire de la RAF. Enfin, c'est comme toutes les histoires, on peut pas les raconter en une heure et demie. Il faut même des encyclopédies n'arrivent pas à raconter l'histoire. Et du coup, j'assume le fait de couper dans cette histoire, voilà, en choisissant ce rapport aux images et en m'arrêtant à celui-là. C'est une lecture, c'est une coupe transversale que j'opère, voilà, dans une histoire et qui est là, qui m'est propre, c'est la manière dont je rentre dedans.
Ça, je vais
vous est propre, et j'ai envie de dire que vous poursuivez. On voit bien comment vous poursuivez un travail entrepris depuis des années. Moi, je connais avec plaisir deux de vos travaux précédents.
C'est le premier long métrage, mais il y a eu beaucoup de courts-métrages.
Vous avez fait beaucoup de courts-métrages précédemment, n'est-ce pas? Celui que vous avez fait sur Hiroshima. Je connais votre travail aussi sur les femmes tondues, filmées en 1944, au moment de la défaite allemande, n'est-ce pas? Je sens votre... Il y a une méthode qui est toujours la même. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez cette passion que, semble-t-il, nous partageons pour l'image et le son d'archives?
Jean-Gabriel Perriot.
Oui. Ça, c'est une question très, très sérieuse. Pas sérieuse, mais c'est probablement parce que j'aurais du mal, par exemple, de faire un film documentaire sur le contemporain. Parce que je le comprends pas ou mal. Et du coup, le passé me sert à, d'un coup, enfin, je vais tomber face à un événement, souvent qui s'ancre par des images, ou en tout cas où il existe des traces visuelles, qui me permet de questionner des choses de mon monde présent par le biais du passé. Parce que du coup, au moins par le passé, je peux accéder à tellement de livres, d'images, de sons. Un travail de pensée a déjà été effectué sur ces sujets-là, donc je ne me retrouve pas tout seul, je suis accompagné. Oui. Et ça, voilà, c'est plus facile pour moi de passer par le passé pour parler d'aujourd'hui.
C'est ça, vous questionnez notre passé par le truchement des images mémoire de ces événements. Et si je faisais une toute petite comparaison, nous questionnons les images qui nous ont raconté ces événements. À Mystère d'Archives, c'est ce que nous faisons. Donc en fait, nous sommes dans une démarche proche, avec heureusement des écritures très différentes.
France Culture, la grande table.
Mushroom, extrait d'un album qui date de 1972 du groupe Can, un groupe emblématique de la musique allemande des années 1970 qui faisait du rock progressif allemand. On est là dans la musique, mais revenons aux images avec vous, Jean-Gabriel Perriot et Serge Vialet. Parce que dans le film que vous avez réalisé, Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Perriot, ce qu'on voit également, c'est une guerre d'images, si on doit plonger au cœur maintenant de ces images que vous avez choisi de montrer. Pourquoi une guerre d'images ? Parce qu'on voit bien que les membres de la bande Abader, croyant au départ à la force des images et croyant qu'avec leurs images qu'ils faisaient, qu'ils réalisaient, ils pourraient changer le monde, ils enclenchaient une véritable guerre face aux images qu'on leur renvoyait en face. En particulier, ils s'en sont pris à Springer qui détenait alors non seulement un certain nombre d'organes de presse écrite, mais aussi de télévision. Et ils s'en sont pris nominativement à quelqu'un comme Springer dans la création à eux des images. Et ce qu'on voit dans votre film, c'est à quel point les images répondent aux images. On voit par exemple des images du film engagé, parfois même exhortant à la violence, comment on fait un cocktail Molotov ou comment on simule par trucage la mise à feu du palais de justice. On voit ce type d'images-là qui répondent à des images de plateau télé. Au fur et à mesure que les choses avancent, les hommes politiques allemands sont face caméra, c'est-à-dire face à nous téléspectateurs, pour répondre par ce type d'image aux images que... Voilà. Et ça c'est aussi une guerre d'images que vous montrez.
Oui, elle est... Mais par contre, elle n'est pas parallèle ou elle n'est pas en contradiction. Elle met du temps à se développer. En tout cas, le film montre une première partie, une deuxième, dans laquelle on répond quelques années plus tard. Et effectivement, sur la question des étudiants, c'était très étonnant dans ces films. Moi, c'est la représentation de la violence directe. Mais qui est aussi dans l'air du temps. Enfin, on le voit dans le film, j'utilise un bout de Godard qui appelle à la lutte armée, Zabriskie Point avec l'explosion jubilatoire de la fin. Il y a une époque, et eux en sont empreints, de la violence est au quotidien, est un outil possible, et le cinéma et les films tracts en font l'apologie en permanence. Ce qui devient un petit peu forcément terrible quand on les voit, c'est quand on sait ce qui va se passer avec eux. Voilà, il y a une espèce de pressentiment qui est un peu entre faire un cocktail Molotov, faire un film track avec un cocktail Molotov et ensuite aller poser des bombes. Là, d'un coup, il y a un endroit qui est terrifiant, pour moi en tout cas en tant que spectateur. Après, effectivement, il y a une guerre dans le sens peut-être où une de mes questions, c'est pourquoi, pour écrire l'histoire, des images sont actives et des images disparaissent. Et pourquoi, par exemple, les images globalement des années 60 n'ont pas été effectifs pour l'écriture de l'histoire. Ce qu'on retient en tout cas de l'histoire de la RAF, c'est uniquement ce qui a été écrit dans ce que je montre à la fin du film, en 77, où d'un coup il y a une espèce d'amnésie complète de l'histoire qui se met en place par l'outil de la télévision à ce moment-là. On voit que tout change, même le vocabulaire change à ce moment-là. La grammaire change, tout change. Et aujourd'hui, restent ces images de politiciens, ce qu'ils pensaient de la RAF, et tout le reste voilà, a été perdu dans des fonds d'archives, dans des caves en train de moisir. Et tout ça a disparu, même de la mémoire collective.
Perdu, mais vous avez retrouvé.
Oui.
Vous en avez retrouvé une bonne partie, n'est-ce pas ?
Voilà, mais il faut des gens pour aller les chercher. C'est très...
Et il en sera ainsi, hein, toujours. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons à disposition une mémoire colossale. Rendez-vous compte que depuis 120 ans, des hommes et des femmes nous rapportent des images sur les petites et les grandes palpitations de nos sociétés. Et en fait, une partie de notre travail consiste aussi à aller retrouver, rechercher. Elles disparaissent parfois tout à fait involontairement. Si je peux prendre juste un court exemple qui se situe en 1944, des images tournées dans le maquis du Vercors. Dans le maquis du Vercors, 1h30 d'images qui ont disparu, on peut dire, de 1948 à 2013. On les a retrouvés par hasard, 1h30 d'images qui nous racontent la vie des maquisards dans le Vercors. Donc en fait, une partie de votre travail, c'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question, comment travaillez-vous ? Et je comprends mieux que vous ayez passé effectivement 8 ans à faire ce film, n'est-ce pas ? C'est un lent travail de recherche qui fait de nous, je crois, comme vous l'avez aimablement dit, des archéologues.
Als der Pilot in Mogadischu oder in Aden erschossen worden ist, hast du gesagt, du möchtest gerne, dass für jeden, der da erschossen wird in Aden, ein Terrorist in Stammheim erschossen wird.
Ja, öffentlich.
Öffentlich, ja?
Ja.
Okay, und das ist demokratisch?
Nee, das ist nicht demokratisch. Das war auch nicht demokratisch, dieses Flugzeug zu entführen und zu sagen, Jetzt entschließen wir nach und nach jeden, wenn du da drin bist.
Jean-Gabriel Perrieux, ce qu'on entend là, c'est à la fin de votre film. On ne le sait pas. C'est peut-être une petite réserve que j'ai à vous faire, à vous exprimer. C'est que, comme on est vraiment dans votre film en permanence, puisque vous choisissez de mettre les dates, mais vous choisissez de ne pas mettre de voix off, parti pris tout à fait honorable et respectable, qui fait qu'on est plongé dedans, mais en même temps, vous choisissez aussi de ne pas mettre de légende. Ce qui fait qu'on ne sait pas toujours qui parle. Là, il s'agit de Fassbinder, réalisateur phare des années 70 en Allemagne, dans un court-métrage qu'il a réalisé, L'Allemagne en automne, en 1978, et on l'entend interpeller assez durement sa mère, sa propre mère, à qui il reproche d'excuser les mesures contre les membres de la RAF qui viennent de prendre en otage un avion en échange de la libération de certains des leurs qui sont emprisonnés. Et la mère lui dit que la démocratie est imparfaite et qu'elle lui préférerait finalement un pouvoir autoritaire, mais qui serait bon, aimable et décent. Alors, quand on sait que cette mère a connu le nazisme, tout cet héritage nazi est finalement le cœur aussi de votre film, d'un point de vue politique. Mais c'est cette réserve-là, parce que si je n'avais pas lu les articles de presse, je n'aurais pas su que c'était Fassbinder, et les journalistes qui ont écrit les articles de presse avaient lu le dossier de presse, Jean-Gabriel Perrieux. Oui. Mais les spectateurs ne le savent pas.
Oui, mais c'est un choix aussi, c'est quelque chose que j'ai assumé, parce que pour deux choses. Déjà, c'est-à-dire, pourquoi indiquer Fassbinder, mais pas indiquer Godard ou autre. C'est-à-dire que si je commençais dans un travail de légendage, il fallait tout légender. Et c'est vrai que je me retrouvais du coup face à d'un coup, c'est-à-dire ce que j'enlevais par la voix off retombait dans l'écrit. On est dans le cours d'un visionnage, on allait avoir des titres à rallonge, souvent en allemand, et ça ne répond pas en fait. Ça ne répond pas à grand-chose, et je sais du coup que chaque spectateur, selon son savoir, par exemple si on prend, est-ce qu'on reconnaît Fassbinder ou pas, est-ce qu'on connaît son cinéma, on ne rentre pas dans l'extrait de la même manière, on n'y lit pas la même chose, mais au final, quelqu'un qui ne sait pas que c'est Fassbinder voit quand même d'un coup un extrait de cinéma avec un homme qui se met à nu, qui s'engueule avec une femme qui visiblement est dans tous les cas de la génération précédente, oui. Et le pouvoir de cet extrait reste là. Après, il y a du paradiscours ou des paralectures pour des gens qui vont reconnaître tel et tel personnage dans les images. Tiens, il y a Cohn-Bendit là dans le coin d'un truc. Et ça amène pas de la complexité, mais des différents niveaux de lecture.
Et en tout cas, ça n'enlève absolument rien à cette réflexion de fond constamment renouvelée sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est l'utopie cinématographique, sur ce que font les réalisateurs quand ils créent des films, quand ils vont chercher des archives pour en faire non seulement de l'archéologie, mais aussi des films de cinéma d'une grande valeur. Sings all alone in his one-man band. One time in life, right comes along. For the man who's always been wrong. One time a smile. On se quitte avec la chanson de fin de votre film One Time par Helen Brown. Merci beaucoup Jean-Gabriel Perrieux. Une jeunesse allemande, c'est à voir au cinéma. C'est sorti le 14 octobre et c'est encore dans un certain nombre de salles, j'espère pour longtemps. Merci beaucoup Serge Vialet. Je rappelle
merci
que
vous.
Mystère d'archives sera à nouveau sur les écrans de la télévision grâce à Arte du 2 au 27 novembre à partir du lundi et jusqu'au vendredi à 17h35 avec 10 inédits. Et puis c'est désormais un livre qu'on peut trouver en coédition Ina Grund et Arte Édition. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table. Merci encore.
Merci beaucoup.